Cité Radio. Il est 17h.
Diabète, obésité, maladie du foie gras sont des affections chroniques. Associées à des pathologies du cœur, elles sont appelées maladies cardio-métaboliques et sont une cause majeure de décès en France.
Face à cet enjeu de santé publique, les médecins et chercheurs de l'IHU ICAN, la Fondation Cardio-Métabolisme et Nutrition, se mobilisent.
Pour soutenir la recherche contre les maladies cardio-métaboliques, faites un don. Rendez-vous sur le site ihuican.org. IHUICAN.org.
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3, avec Cité Radio. Avec Cité Radio, suivez la positive info tout au long de l'année sur le 89.3. Cité Radio vous donne rendez-vous.
Les chroniques irrégulières. Chaque semaine, Hélène Duvialard apporte son regard affûté sur des sujets d'actualité. C'est à retrouver le vendredi à 13h30. Et le dimanche à 16h, sur Cité Radio, La Positive Info.
Bonjour à tous, bienvenue sur Cité Radio pour cette émission spéciale consacrée à la politique de la ville. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cette action publique visant à restaurer l'égalité républicaine dans les quartiers et améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Nous allons en discuter avec nos deux invités en plateau. Bonjour Marie Quinton.
Bonjour Guillaume Colomba.
Vous êtes donc adjointe au maire de Tours, délégué au logement, à la politique de la ville et à la lutte contre l'exclusion. Il y a également Emmanuel François. Bonjour Emmanuel François.
Bonjour Guillaume.
Et donc vous êtes maire de Saint-Pierre-des-Corps, vice-président délégué à la politique de la ville et à la rénovation urbaine à Tours Métropole Val-de-Loire. On se retrouve tout de suite avec nos invités.
Émission spéciale politique de la ville sur Cité Radio. Guillaume Colomba.
Commençons tout de suite avec vous, Emmanuel François. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est la politique de la ville et quels sont ses objectifs ?
Alors, la politique de la ville, c'est un très très grand chantier qui se développe dans l'Hexagone et aussi dans les DOM-TOM. Et le premier principe de la politique de la ville, c'est de gommer les inégalités. Comment peut-on faire ? On rénove les quartiers et il y a un grand plan en rue de rénovation urbaine. Pour lutter à la fois contre la précarité énergétique, pour lutter contre les difficultés de logement qu'on peut rencontrer. C'est favoriser l'attractivité des quartiers, notamment avec une rénovation sur l'espace public. C'est aussi apaiser les modes de vie et prendre en compte la tranquillité publique. C'est agir sur la parentalité, appréhender les difficultés d'être parent et aider à être parent. Sur l'éducation, avec l'éducation nationale, quand on met en place des classes dédoublées, c'est-à-dire des classes où les élèves sont à moins de 15 par classe. C'est faciliter l'accès aux droits. C'est essayer de conserver dans la manière du possible des commerces de proximité, développer des services publics, des équipements sportifs, des équipements publics et culturels. Ce sont aussi favoriser l'inclusion, et quelle qu'elle soit, l'inclusion vis-à-vis des personnes à mobilité réduite, mais aussi celles qui sont écartées de l'emploi. Et par un nouveau dispositif d'ailleurs dont je voulais vous parler, c'est favoriser l'auto-entrepreneuriat par un dispositif qui s'appelle CitéLab, qui vient de l'État. Voilà, en gros, tout ce que... Mais c'est très, très, très vaste. On peut encore en discuter pendant une petite heure.
Oui, et c'est vrai que le chantier est très vaste. Et justement, quels sont les quartiers qui sont concernés par la politique de la ville et combien y a-t-il d'habitants dans ces quartiers ?
Alors, les quartiers de la politique de la ville, ce n'est pas une très bonne nouvelle, finalement, parce qu'on s'aperçoit que la pauvreté progresse. La définition d'un quartier prioritaire, on va en parler, c'est plus simple, c'est 1000 habitants avec un revenu médian de moins de 10 000 euros par an sur une enclave de population qui fait plus de 10 000 habitants. Voilà la définition du quartier prioritaire. Et on a trois nouveaux quartiers prioritaires sur la métropole de Tours. Nous avons les Tourettes à Tours-Nord, les Moriers à Jouy-les-Tours et la Galboisière à Saint-Pierre-des-Corps. Et on est passé de 38 000 habitants concernés par les quartiers prioritaires à 42 000.
Ce qui représente 13 quartiers, hein, si je ne me trompe pas.
13 quartiers sur la métropole, vous avez raison, et dans le département 15, puisqu'il y en a deux à Amboise.
Très bien. Alors Marie Quinton, il y a aussi un contrat important, c'est le contrat de ville, hein, qui est donc le contrat unique de référence des politiques publiques de Tours et du territoire métropolitain. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Bah, tout à fait. Donc Emmanuel François pour en parler au moins aussi bien que moi. Le contrat de ville, c'est un contrat qui est élaboré entre différents acteurs, et qui va permettre de nous fixer, institutions, partenaires, associatifs, des objectifs communs, des objectifs qui soient partagés. On veut travailler au bénéfice de ces habitants des quartiers les plus précaires, où il y a le plus d'inégalités. Et pour faire ça, il faut qu'on soit d'accord sur les objectifs qu'on se donne. Mettons que l'on parte en vacances avec des amis, vous pouvez avoir trois personnes qui vont avoir trois visions complètement différentes de ce qu'ils veulent faire durant les vacances. Il y en a un qui veut s'amuser, faire des soirées, l'autre qui veut plutôt faire des visites, et puis le troisième qui veut se reposer. À la fin des vacances, on ne sera pas d'accord sur les objectifs qu'on s'était fixés et chacun sera mécontent. Le contrat de ville, ça vise justement à éviter ça. Si je sors de ma métaphore, à ce que toutes les institutions, l'État, la métropole, les villes, les acteurs qui font partie de ce contrat de ville, l'association, je pense aussi bien sûr aux bailleurs sociaux, je pense par exemple à la chambre de commerce et d'industrie, que tous ces acteurs s'entendent sur les objectifs qu'on se fixe et la manière de conduire les actions en allant tous dans le même sens. C'est ça pour vous expliquer le contrat de ville.
Alors justement Emmanuel François, donc il y a différents acteurs qui sont concernés par le contrat de ville, et combien d'argent est alloué à tout cela ?
Alors, il y a de nombreux acteurs. Hein. On a l'acteur principal, c'est l'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui lutte pour améliorer la rénovation dans les quartiers. Il y a les bailleurs sociaux, il y a la région qui intervient aussi, il y a les départements, il y a Tours Métropole Val-de-Loire, il y a la caisse d'allocation familiale, il y a les communes. Il ne faut pas les oublier que les communes, via leur CCAS, interviennent dans le cadre de la politique de la ville. Et peut-être que Marie nous parlera du parcours de la réussite éducative, je pense, c'est important. Il y a l'État, la préfecture. Alors, tous ces acteurs sont des acteurs institutionnels, mais il y a quand même des acteurs sur le terrain qui sont extrêmement importants. C'est tout le tissu associatif. Parce que sans le tissu associatif, nous n'avons pas cette proximité avec les gens en grande précarité, avec les personnes en grande précarité. Et donc, c'est grâce au tissu associatif qu'on fait des actions qui sont ciblées au plus proche des quartiers prioritaires. Alors, les moyens pour l'ANRU, c'est 250 millions d'euros sur le plan quinquennal de rénovation. La préfecture, c'est de l'ordre de 3,5 millions d'euros, dont 1 million qui est orienté vers les adultes relais qui sont des personnes qui interviennent dans les quartiers prioritaires. C'est 50 postes au total. Et puis, pour la métropole, c'est 750 000 euros, avec une enveloppe qui a augmenté, malgré un budget général de la métropole qui diminue. Les moyens alloués à la politique de la ville ont augmenté. Et sur ces 750 000 euros, on a 400 000 euros qui sont dédiés aux associations, de façon à ce qu'elles interviennent sur le territoire.
Donc un chantier très vaste et effectivement qu'il faut financer. Marie Quinton, donc beaucoup de dispositifs sont mis en place dans les quartiers, financés par la politique de la ville. Où en est-on aujourd'hui et notamment ici dans le quartier des Fontaines ?
Si vous me permettez un tout petit pas de côté pour rebondir sur ce que disait Emmanuel François à l'instant, oui. Il y a des crédits de politique de la ville hein, que met la métropole, que mettent les villes, que bien sûr met fortement l'État. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle le droit commun. On en avait parlé l'an dernier, c'est un rendez-vous annuel important, cette émission autour de la politique de la ville. La question du droit commun, elle est essentielle. À chaque fois qu'on parle politique de la ville, on parle de droit commun. Et il ne faut pas perdre de vue cette notion. C'est-à-dire que si on veut vraiment réduire les inégalités, il faut déjà que l'offre de base pour tous les habitants de la ville et l'accès à ces offres soit équitable pour tout le monde. Et la politique de la ville, elle vient garantir cette équité en venant bien sûr en plus. Donc on s'appuie sur tous ces crédits dans le cadre du contrat de ville, mais il y a aussi tout ce qui va être développé, que l'on trouve dans les différents quartiers, que ce soit des quartiers populaires, prioritaires, ou que ce soit d'autres quartiers de la ville. Mmh. Et donc, dans ce cadre-là, il y a notamment les crédits du pacte, le pacte des solidarités, qui sont en train de se mettre en place, et qui vont bénéficier à tous les habitants. Mais puisqu'il y a plus d'habitants qui sont en situation précaire dans ces quartiers, eh ben, ce sont des actions et des moyens qui vont venir aussi en plus. Donc ce que je voudrais dire, c'est que on ne peut pas résumer l'action à l'égard des habitants des quartiers populaires aux actions politiques de la ville, à ces dispositifs politiques de la ville qui sont essentiels. Mais il faut aussi regarder tout ce qui est du droit commun. Oui. Par exemple, sur la ville de Tours, dans les quartiers QPV, quartiers prioritaires, il y a plus de 52, il y a 52 équipements publics qui sont présents et qui sont là pour répondre à des besoins des habitants. Quels sont les dispositifs mis en place ? Bah, on en a donné quelques exemples. Je peux aussi vous parler d'actions que les habitants des Fontaines, puisqu'on est là dans le quartier des Fontaines, trouvent principalement, ont pu vivre des moments qu'ils ont pu vivre cette année grâce à ces financements de la politique de la ville. D'abord, je voudrais parler du PRE, Programme de Réussite Éducative, parce que c'est un programme qui est très largement plébiscité par les familles et les jeunes qui en bénéficient. Et puis, c'est finalement un investissement qui est très important, c'est l'investissement pour l'avenir. Donc, le PRE va bénéficier de crédits d'État et puis d'un financement de la ville par le biais de la Caisse des écoles. Et il s'agit pour des jeunes qui sont en difficulté, qui sont en décrochage, qui ont des problèmes aussi à la maison, de pouvoir se faire accompagner. Mais on accompagne le jeune, mais on accompagne aussi la famille avec. Et on traite dans tous les aspects de sa vie. Il y a un problème de dentiste, bah, on s'occupe du rendez-vous sur le dentiste. Il faut faire de l'accompagnement du renforcement scolaire, on le fait. Il y a besoin d'un peu d'émancipation. Un enfant très timide et tourné sur lui-même, eh ben, on va mettre, pourquoi pas, un atelier théâtre. Mmh. Voilà, on traite ces aspects avec des référents de parcours, des référenteux, puisque ici aux Fontaines, ce sont des femmes qui vont accompagner en lien avec l'équipe éducative enseignante ces enfants et pour lesquels on obtient quand même de belles avancées, donc très beau dispositif.
Donc beaucoup d'actions qui sont menées sur le terrain, c'est ce que vous voyez effectivement tous les deux.
Si je me permets, Marie Quinton a bien résumé la situation. Le parcours de réussite éducative, c'est quelque chose qui est au plus proche des familles, c'est-à-dire qu'on accompagne les familles au plus proche de leurs besoins, on identifie leurs besoins et on les accompagne avec les enfants.
Et justement, Emmanuel François, vous qui êtes également le maire de la ville de Saint-Pierre-des-Corps, en quoi est-ce important d'accentuer la politique de la ville et notamment de favoriser la mixité sociale ?
Alors, la mixité sociale, c'est l'alpha et l'oméga de la politique de la ville. Hmm. C'est absolument indispensable. Ça permet aux habitants de sortir d'un référentiel qui est toujours le quartier prioritaire. Vous savez que les grandes difficultés dans les quartiers prioritaires, c'est que les personnes qui y sont... On ne peut pas dire qu'ils s'y sentent mal, faut pas stigmatiser de cette manière, mais ils restent un peu trop renfermés sur eux-mêmes. Et donc apporter de la mixité, c'est retrouver d'autres repères, c'est avoir d'autres repères, d'autres référentiels. Et ça permet de s'ouvrir vers d'autres voies, d'autres lieux, et de penser parfois un peu autrement. C'est important.
Oui. Et justement, je reviens vers vous, Marie Quinton. Vous m'avez dit qu'il y a actuellement un nouveau contrat de ville qui va être mis en place à partir de cet été.
C'est ça. Le contrat de ville que l'on suit maintenant depuis 2014 arrive à sa fin. Et donc, c'est l'heure d'ouvrir une nouvelle page. Et donc, après plus d'une année de bilan sur toute la métropole et au-delà, sur les bénéfices de la politique de la ville, mais aussi ces points d'amélioration. Après des temps comme les assises de la politique de la ville qui ont été menées avec l'État en partenariat avec la métropole et les différentes villes, après tous ces temps-là, on a tiré des enseignements. On est en train de finaliser le diagnostic final de ce contrat de ville avec une personne qui est Madame Terrain, qui est actuellement en train de finaliser une étude. Et puis tout ça doit être terminé au niveau de sa rédaction au 31 mars. Et puis, après, ben, un long cycle de signature, puisque qui dit contrat dit partenaire signataire du contrat. Et donc, en juin 2024, on lancera le nouvel appel à projet pour ce contrat de ville qui va débuter avec des points qui resteront les mêmes que ceux que l'on connaît, des bases qui sont solides, avec des acteurs dont on réaffirme l'importance, les centres sociaux, les EVS, par exemple, et puis des évolutions. Quatre axes d'intervention qui seront retenus dans ce nouveau contrat de ville. Toute la question du rayonnement, de l'attractivité du quartier, de l'ouverture vers l'extérieur, aussi bien que de son amélioration à l'intérieur pour y faire venir des gens. Évidemment, l'insertion et l'emploi, et notamment la question des jeunes qui est essentielle. C'est vraiment quelque chose sur lequel on s'est tous retrouvés entre partenaires pour insister. Mmh. On va parler aussi bien sûr de l'accompagnement de l'habitant tout au long de sa vie, donc sur tous ces aspects au quotidien. Et puis il y aura un axe transversal bien sûr qui est la question de l'implication, de la participation des habitants qui demeure très important, parce que si on n'emmène pas les habitants, si on fait sans eux, eh ben, ça veut dire qu'on fait contre eux. Ouais. Donc, évidemment, on veut fortement les impliquer dans ce nouveau contrat de ville.
Oui, donc ça permet... Oui, Emmanuel-François, allez-y.
Le dernier axe, il y a un axe qui est sur la transition écologique,
allez-y, oui.
qui permet de lutter contre la précarité énergétique et surtout contre la précarité alimentaire. Bien s'alimenter, c'est aussi prendre soin de sa santé, c'est essentiel.
Oui, c'est ça. J'ai oublié tout cet axe qui est vraiment très important sur, globalement, la question du cadre de vie. Et aussi, on voudrait traiter des choses qui gâchent bien la vie des habitants dans les quartiers autour des incivilités. Et donc, autour de la tranquillité publique, des incivilités, du logement. Enfin, vraiment, le cadre de vie qui est un de ces quatre axes. J'en ai cité quatre, j'en avais dit que trois. Emmanuel-François était là pour rectifier, je le remercie.
Merci Emmanuel-François. Et justement, le logement, la précarité, c'est ce que vous faites aussi, Marie Quinton, au sein de la ville de Tours, puisque vous occupez aussi du logement, hein, si je ne me trompe pas.
Absolument. Ouais. Donc une grande partie de mon mandat est consacrée à la question du logement social, les attributions, la production de logements sur la ville.
Ouais. Exactement. Avec beaucoup de compétences et beaucoup d'envie, il faut le dire.
Ça, il faut le dire.
Dans un contexte pas facile de
en
crise
plus,
du logement.
Exactement.
Oui. Et vous l'avez dit, donc le nouveau contrat de ville va être mis en place cet été. C'est pour une durée de combien de temps ?
Eh bien, on part pour 6 ans. Et on fait une pause à mi-parcours au bout des 3 années pour faire un bilan.
Donc jusqu'en 2030. Emmanuel-François, vous voulez réagir ?
Je voulais juste réagir sur la CTG, parce que nos auditeurs ne savent peut-être pas ce qu'est la CTG. C'est la Convention Territoriale Globale, qui est une articulation avec la Caisse d'Allocation Familiale et qui est un contrat qui est mis en place entre une commune et la Caisse d'Allocation Familiale pour pouvoir agir sur le territoire, notamment sur la parentalité, sur le nombre de places en crèche, etc., etc. Et puis le PEDT, qui est un plan d'éducation du territoire, qui permet en fait de flécher un petit peu les jeunes de maternelle, de primaire, de les flécher sur les activités qu'on peut leur proposer, des activités à la fois culturelles, des activités éducatives, et puis des activités sportives, notamment lorsqu'ils ont des temps libres et le mercredi, puisque la plupart du temps, les écoles, je crois, sur le territoire sont à 4 jours par semaine, et donc le mercredi reste un jour plein où on peut aussi proposer des activités à ses enfants dans les quartiers prioritaires.
Donc favoriser la jeunesse, hein, vous l'avez dit tous les deux au cours de cette interview. Mmh. Je pense qu'on a fait le tour de la question, même s'il y a encore d'autres sujets abordés. En tout cas, merci à tous les deux pour cette première partie d'émission. Vous êtes toujours en direct sur Cité Radio 89.3 FM et DAB+ à Tours. Et vous pouvez nous écouter sur citeradio.fr. On va faire une première pause musicale avec Grand Corps Malade qui interprète Retiens les rêves.
Soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard. J'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs. J'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir. Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir. Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement. J'ai regardé. vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants, j'ai aimé. Dans la radio ça kickait, vos rappeurs du moment, dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement. Le soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant. J'ai rêvé, est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves? Si on voulait, si on voulait. J'ai rêvé, est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves? Si on voulait, si on voulait. J'ai rêvé, c'était l'hiver tôt le matin, juste avant que le jour se lève. J'ai regardé vos yeux endormis sereins autour de la table du petit-déj. J'ai aimé, il y avait l'odeur du grille-pain et vous me racontiez vos rêves, de drôles d'histoires de requins et de marins qu'on enlève. C'était un matin commun, mais comme un privilège. J'ai rêvé, c'était l'été à la campagne, il y avait de belles éclaircies. J'ai regardé, c'était peut-être à la montagne, les rêves c'est pas très précis. J'ai aimé, vous me disiez que c'était relou, cette crème solaire à s'enduire. Il y avait du bonheur partout et vous vouliez vous resservir. Je restais tout le temps avec vous pour pas vous sentir grandir. J'ai rêvé, est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? C'était un rêve éveillé. Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait. Quand ils apprennent à lire, nous on vieillit sans défense. Je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas. Et si les aider à grandir nous fait perdre un peu d'innocence, je veux bien devenir adulte, si c'est pour être papa. J'ai rêvé, est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait.
À l'occasion de la semaine sur le quartier des Fontaines, émission spéciale consacrée à la politique de la ville, sur Cité Radio.
Merci d'être toujours à l'écoute de Cité Radio. Nous sommes toujours avec Marie Quinton, adjointe au maire de Tours, déléguée au logement, à la politique de la ville et à la lutte contre l'exclusion, ainsi qu'Emmanuel François, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, vice-président, délégué à la politique de la ville et à la rénovation urbaine à Tours Métropole Val-de-Loire. Alors, chers invités, nous avons quelques questions à vous poser, ou plutôt des questions des habitants. On en écoute tout de suite une première.
Et enfin, nous recevons l'adjointe du maire de Tours, Marie Quinton, pour notre émission spéciale de la politique de la ville. Est-ce que vous auriez un message à lui faire passer, une question à lui poser?
On ne connaît plus nos représentants enfin, de quartier, on ne les reconnaît plus. Avant, on avait un conseiller municipal qui était là très souvent, qui faisait partie, enfin qui participait à nos réunions et tout, que maintenant on ne les connaît pas.
Alors, qui veut réagir? Marie Quinton et Emmanuel François.
On va laisser Marie réagir puisque la question lui est adressée principalement, mais après je veux bien compléter sur le rôle de l'élu et...
Allez-y, Marie Quinton.
Eh ben, donc, je vous réponds en disant que d'abord, les élus, ils sont là derrière les associations qui sont présentes dans les quartiers et qui font une action qui est essentielle. Je pense au centre social, je pense au boxing club, à Livre Passerelle, Arborescience, Passerelle. Bien sûr, toutes ces associations qui sont présentes sur le quartier, à Lire, qui est présent juste à côté de là où on se trouve ici, l'APF, etc. J'espère que j'ai oublié personne parce que je veux pas faire des mécontents. Donc on est là pour financer ces actions et puis ça veut dire aussi que quand il y a des financements de ces actions, on est là à des temps forts. et qui sont des occasions pour rencontrer les élus de la part des habitants et puis pour nous, élus, d'échanger avec vous, habitants, sur vos difficultés du quotidien. Cette année, il y avait, à côté, à Les Monteverdi, l'inauguration de l'antenne du centre social, où vous pouviez rencontrer nombreux élus qui étaient présents. On était là aussi sur l'île Balzac, le festival Kanyamakan cet été. Un certain nombre d'événements que vous avez couverts avec Cité Radio, j'étais là à la fête de la musique, on passe au jardin de Berthe, à la soupe qui avait été servie par l'association des habitants des fontaines, bien sûr des passages réguliers au CRAF, ce local qui est tenu par Nedji Delbaja à Les Monteverdi, et puis il y a des instances pour les habitants, à eux, pour pouvoir s'impliquer, où les élus sont conviés, c'est une manière de les faire venir, si je puis dire, bien sur le conseil citoyen des fontaines qui peut inviter des élus, et quand un élu est invité il doit venir, donc n'hésitez pas à vous emparer de ce moyen pour discuter avec nous. Et puis je voudrais aussi parler, je l'avais fait l'an dernier, du fonds d'initiative citoyenne. C'est une enveloppe jusqu'à 500 € pour des projets d'habitants, et pour sélectionner ces projets d'habitants, et ben ça se fait avec le centre social et puis les élus qui sont présents et qui travaillent sur ce dossier. Donc je voudrais vraiment vous dire qu'on est présent, qu'on a le souhait de s'impliquer, d'être au plus près. Et n'hésitez pas à nous interpeller.
On précise aussi, Bruno Delorme me dit qu'il y a également le comité de quartier des Fontaines qui a rédigé un journal avec la subvention. Voilà.
Exactement, journal que j'ai vu passer aujourd'hui dans mes messages avec son tout premier numéro.
Oui, tout à fait. Emmanuel François.
Un petit complément, oui, pour dire que, en fait, l'action métropolitaine, elle se situe sur les appels à projets des associations, et on est au plus près des associations. On choisit de les financer, on regarde les actions qu'elles portent. Ces actions, elles doivent porter sur plusieurs communes de la métropole, concernées par les quartiers prioritaires. Et puis, on les accompagne. Et puis, quand l'action se produit, on fait en sorte qu'il y ait toujours un élu. Donc qu'il soit de la ville de Joué, qu'il soit de la ville de La Riche, qu'il soit de la ville de Saint-Pierre ou celle de Tours, il y a toujours quelqu'un généralement. Et dans les communes, quand on intervient avec le CCAS ou sur les actions qui sont portées au quartier prioritaire, mais pas seulement, c'est-à-dire dans l'ensemble de la ville, les équipes municipales en place essayent toujours d'allouer une personne qui représente, alors le maire peut-être, mais qui représente au moins la commune, qui représente la mairie.
Donc ce qui est important de vraiment d'être sur le terrain. On passe à une autre question.
Le message que je peux en tout cas lancer à la mairie, c'est surtout en ce qui concerne les étrangers comme moi par exemple. Voilà, parce que moi j'en vois beaucoup de parents, beaucoup d'amis, voilà, qui n'arrivent pas à trouver le logement. Je ne sais pas si je peux me permettre, si c'est une discrimination ou pas. Mais en tout cas, si la mairie arrive à traiter les étrangers de la même façon que les Français de souche, ça c'est important parce qu'en fait, nous sommes aussi en situation régulière. Donc on travaille, on cotise, on verse toutes les charges. Donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas bénéficier quand même de certains avantages que les Français de souche.
On vous remercie, Emmanuel François, puisque vous devez nous quitter. On vous remercie chaleureusement d'être venu sur Cité Radio et on vous souhaite en tout cas nos meilleurs vœux pour 2024 et vous revenez quand vous voulez sur notre antenne.
Merci à vous et meilleurs vœux aux éditeurs. Et je vous laisse en compagnie de Marie qui a toute la compétence et toute la connaissance du territoire pour pouvoir vous répondre au mieux aux questions qui seront posées. Merci à tous. Bonne journée.
Merci infiniment. Merci, à bientôt. Alors Marie Quinton, on reprend avec vous. Donc on parlait du logement pour les étrangers. Quelle est votre réaction à ce que nous venons d'entendre ?
Oui, alors, dans ce que j'ai compris de la question, ce que nous dit votre auditeur, c'est qu'il est en situation régulière et qu'il y aurait une différence qui serait faite entre les Français, il dit de souche, donc des personnes, j'imagine, blanches, et des personnes qui seraient d'une autre origine. Bah ça, je vais le rassurer, c'est complètement illégal. C'est de la discrimination. Ouais. Par contre, et là où la question elle est pertinente, c'est que l'accès au logement social, donc du logement avec un niveau de loyer qui est moindre, est conditionné au fait d'avoir soit une pièce d'identité, soit un titre de séjour. Nous, on est confrontés à un certain nombre de situations de personnes qui peuvent avoir, par exemple, une autorisation provisoire de séjour, ou un autre document, un récépissé de leur demande de titre de séjour, mais pas encore le titre de séjour, eh ben on ne peut pas, enfin le bailleur ne peut pas faire signer un bail dans le parc social avec cette pièce-là d'identité. Et donc ça nous confronte à des situations de personnes qui ne peuvent pas accéder à un logement, ou alors dans des délais très très longs, le temps de la délivrance de la pièce qu'il faut, donc le titre de séjour. Pour répondre à ça, la personne, elle n'a pas le choix, soit de se tourner vers le parc social, soit un hébergement chez un tiers, soit après la dernière extrémité, mais ça va être le 115. Donc pour moi, il faudrait une évolution législative sur ce sujet-là. Par contre, il n'y a pas d'évolution législative qui sont possibles à l'échelle d'une commune. C'est une réflexion nationale qui doit avoir lieu sur ce sujet. Vous avez vu que même si le Conseil constitutionnel a censuré une bonne partie de la loi immigration, c'était encore des durcissements qui étaient prévus, puisque un des articles qui était censuré, c'était 5 ans de présence sur le territoire en situation régulière avec du travail pour bénéficier d'allocations, dont les APL. Ce qui aurait réduit encore plus l'accès au logement à des personnes récemment arrivées sur le territoire français. Donc voilà, c'est une question qui est intéressante. Et si vous êtes victime de discrimination, signalez-le à vos élus. Et surtout, je le dis par rapport aussi à tout à l'heure, je fais une permanence au centre de vie du Sanitas tous les vendredis matin. Alors les gens, il vaut mieux qu'ils prennent rendez-vous parce que sinon, il peut y avoir beaucoup de monde et je ne suis pas sûre de recevoir tout le monde. Mais c'est l'occasion d'aborder des demandes individuelles de logement dans une situation comme celle évoquée. N'hésitez pas à faire appel à moi. Et puis, ça permet d'aborder plus largement les initiatives sur les quartiers, des besoins de présence élus, etc. On essaie de se rendre le plus disponible possible. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter.
Très bien. Donc, tout est dit. On enchaîne.
Quand on est SDF, alors qu'on a travaillé toute sa vie, avec des tas de problématiques de santé autour et que finalement, on ne vous trouve rien. Bien évidemment, il y a la barque à Tours qui permet de se retrouver, de pouvoir prendre un petit déj gratuit. Le restaurant Marie-Jeanne qui, pareil, permet de manger à midi, mais je veux dire, en dehors de ça, il n'y a rien. Et je pense qu'on est pas mal largués qui avons eu des activités, c'est-à-dire que je ne suis pas resté à rien faire, je suis allé à la fac d'Angers. À mon sens, il y a ici un vrai problème, c'est que fait-on des gens qui sont dans la rue ? Qu'est-ce qu'on leur apporte ? Bon, manger, c'est bien, c'est déjà pas mal, mais à mon avis, c'est insuffisant.
Sans-abrisme, sujet sensible, n'est-ce pas, Marie Quinton ?
Sujet sensible et qui mériterait vraiment une très très longue réponse. Tant le sujet est complexe et tant on met de choses en place à la ville de Tours. Je vais essayer de ne pas m'éparpiller et de donner quelques éléments. Évidemment, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a vraiment besoin à la ville de Tours d'un lieu d'information qui soit simple et accessible. C'est le projet qu'on a porté en début de mandat de maison de l'hospitalité. La maison de l'hospitalité, après vraiment un long travail, on a trouvé son lieu. Ce sera au niveau de Saint-Gatien. Et puis maintenant, il y a des travaux à faire, un montage juridique à faire, les associations à impliquer. Donc ce sera probablement un projet qu'on n'aura pas mené totalement à bien à la fin du mandat, mais qui sera pour 2026-2027. Donc qui sera un lieu d'accueil, d'orientation inconditionnel, d'ailleurs un peu comme la barque, mais avec d'autres services autour. La ville de Tours, elle s'est engagée dans la lutte contre le sans-abrisme et évidemment aussi, et c'est très important pour les personnes seules, les hommes seuls, qui sont souvent les derniers à bénéficier des systèmes d'aide, parce que quand on se retrouve dans une situation comme celle d'aujourd'hui, avec des femmes et puis des nouveau-nés, des fois un mois, deux mois, sans solution, 115, on croule sur les demandes et la priorité fait que on vient en assistance à un nouveau-né qui est forcément très vulnérable. Mais sur la question des hommes seuls, on travaille aussi. Donc on est territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, qui a été démarré il y a maintenant plus de 2 ans, 2 ans et demi, on était en 2021. Il s'agit de sortir d'un système où on passe par de l'hébergement d'urgence, puis une place un peu plus stabilisée, puis une autre offre avant d'accéder à son logement, puisqu'on se rend compte que ce système en escalier, il amène plein de ruptures et il empêche finalement, dans beaucoup de cas, des personnes d'accéder au logement. Donc on parle de la question inverse, on propose le logement et on met tout l'accompagnement social possible autour. Et donc on travaille sur la prévention des expulsions. Avec notamment la mise en place de la reprise de bail que l'on teste. J'entre pas dans le détail, mais ça a déjà permis d'éviter à des personnes de se retrouver expulsées avec le concours de la force publique. On travaille sur la mobilisation de logements, donc les logements du parc privé. On a une campagne des propriétaires solidaires. On a déjà une quinzaine de personnes qui ont bénéficié de propriétaires solidaires, donc des logements du parc privé qui sont mis à des prix très abordables à des personnes qui étaient auparavant à la rue. Et puis bien sûr une très large mobilisation du parc social. 80 ménages, un peu plus de 80 ménages en 2023. Donc ça veut dire un foyer, il peut y avoir plusieurs personnes qui ont pu accéder au logement et des fois après des parcours de rue très longs. Et puis je ne peux pas ne pas citer les Tiny House, puisque ces petites maisons à destination d'hommes seuls avec des problématiques multiples. On dit que des gens qui seraient des grands exclus, qui peuvent être avec des questions, des problèmes d'addiction, qui peuvent être avec des animaux et qui sont chez eux avec un parcours d'insertion, avec un accompagnement. Donc on met des choses en place et pour être tout à fait honnête, l'augmentation très soudaine, très importante des personnes au 115 fait que c'est difficile. Là. Le gymnase des Fontaines qui est ouvert, on a ouvert à 35 places, la semaine d'après 60 places, on a rajouté encore 10 places. On est à 70 personnes qui n'auraient pas de lieu où dormir s'il n'y avait pas ce gymnase pour répondre aux périodes de grand froid.
Ouais. Donc vraiment les accompagner, les soutenir, être au plus près d'eux, c'est ce que vous faites effectivement sur le terrain.
Oui, être le plus présent, donner de l'information. Il y a aussi un guide des premières nécessités. Tapez guide des premières nécessités tour et vous tomberez sur un document qui donne toutes les informations utiles et qui est en plusieurs langues.
Très bien. On a un petit message aussi pour vous.
Ah, j'ai un mot pour elle, c'est qu'elle continue comme elle fait parce que c'est quelqu'un très engagé, très dynamique et qu'on a besoin de quelqu'un comme elle. Je pense qu'on fait la politique de la ville, il n'y a rien à dire depuis qu'elle est là. Je trouve qu'elle fait énormément de choses et que c'est pas plus mal. Et qu'elle n'hésite pas à demander du soutien des habitants.
Voilà, un petit message positif, puisque c'est la positive info. Voilà. On va enchaîner tout de suite avec un petit micro-trottoir des habitants du quartier des Fontaines.
Depuis quand vous habitez ou travaillez dans le quartier des Fontaines ?
2008.
Depuis 1978.
Ça fait 6 mois que je suis ici.
Bah, j'y travaille depuis 2017.
Fin avril 2023.
Depuis 2009.
Et moi, 2001.
Depuis 8 mois.
Est-ce que vous pouvez nous décrire le quartier en un mot ?
Complexe.
Très cosmopolite.
Moi, c'est un quartier que j'aime bien, que je trouve calme. Il y a tout le confort aussi, voilà, aux alentours.
Agréable.
Ouais, agréable, il y a tout à disposition.
Convivial, familial.
Quelles sont les activités que vous aimez faire au sein de votre quartier ?
Des trucs pour les enfants. Je fais du vélo, je fais de la voiture télécommandée.
À côté, moi, j'aime jouer au foot. Donc, ce qui m'a le plus fait attirer dans ce quartier, c'est surtout le terrain de football qui est à côté. En tant que footballeur, je n'ai pas besoin de me déplacer à des kilomètres pour aller pratiquer ce sport.
On aimerait bien faire de la pétanque s'ils arrivent à ouvrir le terrain.
Moi, j'aimerais bien faire de la couture. J'ai fait de la couture. Il faudrait faire des jeux de société. C'est en train de se mettre.
Avant, oui, je faisais partie de pas mal de choses. Banque alimentaire, différentes associations. Mais maintenant, compte tenu de l'âge, je me retire. Et je laisse la place aux jeunes.
Est-ce que vous pouvez nous citer une association qui est au sein du quartier ?
Le comité de quartier, qui vient d'être créé.
Et on a fait le journal. À 2 pages.
On a Biodiversity.
je connais le truc de la boxe.
À part la maison de quartier, je vois pas trop.
Association sportive Tour Sud.
De façon générale, qu'est-ce qui vous plaît dans le quartier ?
Bah, ce rapport avec la clientèle. C'est quand même des clients fidèles qui viennent depuis des années et du coup, on se rapproche de certains, quoi. Donc il y a vraiment cette complicité et cet accueil qui est en général sympa.
Le centre social.
Pourquoi le centre social ?
Parce que je le connais bien et parce que c'est ce qui m'a l'air aujourd'hui le plus adapté aux besoins des personnes.
Tout a été réalisé pour qu'on s'y sente bien.
Quand on est âgé, il y a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de voiture.
Et moi, quand je suis ici, je suis contente, je vois du monde, ça me change les idées. Et la maison pour tous, c'est ma deuxième maison.
Quelles seraient les choses à améliorer aux Fontaines ?
Les parcs pour les enfants, parce qu'il y en a beaucoup d'enfants ici. Et des fois, les parcs ils sont remplis, ils n'ont pas trop... Mais agrandir, aménager, faire des choses pour qu'ils puissent plus jouer là-dedans.
C'est l'entretien des bâtiments du côté HLM, qui ne sont pas très agréables de l'extérieur. La propreté, oui, c'est surtout ça.
Bah, pour les personnes âgées, ne serait-ce que le souterrain, c'est un peu compliqué. Quand il pleut, ils sortent pas parce qu'ils ont peur de glisser, tout ça. Je pense qu'il y a des travaux d'aménagement, je pense, à faire, plutôt. Donc, pour leur permettre d'avoir des accès plus faciles et qu'ils soient en sécurité, en fait, qu'ils se sentent à l'aise.
Bah, la co-construction, déjà, avec les personnes. C'est-à-dire, même entre les associations, il y a énormément d'assos aussi. Il y en a quand même une dizaine, c'est-à-dire, en droit de tour, il y en a le plus. Et entre les assos et puis entre les gens.
Bah, disons qu'il faudrait que les associations, c'est pour ça que le petit journal a été créé, communiquent bien ensemble pour pouvoir faire des choses, quoi, des ateliers et tout ça.
Moi, ça serait faire des associations avec la Maison pour tous et faire des choses ensemble et avec le comité du quartier.
Voilà un tissu des habitants du quartier Marie Quinton. Donc on a entendu, effectivement, on a mis en valeur le tissu associatif, améliorer le quotidien des habitants. Quelle est votre réaction sur ce que vous venez d'entendre ?
J'ai beaucoup de réactions parce que je ne vais pas commenter chacun des propos et je prendrai le temps de réécouter ce micro-trottoir. Mais il me semble vraiment intéressant et dans la même lignée que nous, ce qu'on entend, ce qu'on diagnostique sur le quartier. Tous les ans, sur le quartier des Fontaines, comme les autres QPV, on fait un diagnostic en marchant. Donc, c'est une demi-journée consacrée à déambuler dans le quartier et puis à se retrouver et à se fixer des objectifs sur ce qu'on veut améliorer, les atouts et puis les points plutôt noirs. Et donc, ce micro-trottoir, il est très révélateur parce qu'on retrouve les mêmes choses que nous, on s'est dit dans ce diagnostic en marchant. Ça montre que vous l'avez bien fait dans le quartier des Fontaines. Peut-être je pourrais profiter de ce micro-trottoir pour évoquer la cartographie qui a été faite et qui m'a été rapportée comme vraiment un bon point. Vous la retrouvez affichée par exemple à Les Monteverdi et puis elle va être mise dans d'autres endroits du quartier. Donc un travail de cartographie mené par Madame Brunet de Artefact qui permet de retrouver toutes ces associations, ces lieux pour participer à certaines activités comme disait votre auditrice sur des animations socioculturelles, des animations sportives, créatives, etc. Il y a vraiment une offre qui est intéressante sur le quartier des Fontaines, qui est riche de ces associations. Et donc, c'est une manière de se documenter et d'accéder à cette offre. Sur toute la question plus large du parc de logements, du bâti et même de l'aménagement, la question des circulations dans le quartier, il va y avoir un moment qui va être primordial, très important, ça va être l'arrivée du tramway qui va quand même redessiner très largement l'espace urbain et on va voir différemment les mobilités dans ce quartier des Fontaines. Donc normalement, la livraison, elle sera en 2028.
Maintenant, et début des travaux l'année prochaine.
On s'approche du début des travaux. Ça fera un certain nombre de réponses. Et puis, Monsieur le maire, on a aussi parlé dans ses voeux à l'espace Jacques Villery il y a quelques jours. Il faut mentionner quand même ce grand chantier sur le site de l'ESSEM. Quand on parle des fontaines, il n'y a pas une fontaine. Il y a au moins, on dit, trois quartiers aujourd'hui. La partie Tour Habitat, la partie Ligiris, la partie de la copropriété et de la dalle, eh ben, il y en aura une quatrième. Ça va être ce site-là qui accueille beaucoup de nouveaux logements, des nouveaux équipements dans ce quartier des Fontaines, où des jeunes du quartier vont aussi participer sur les chantiers. Donc, ça ramène de l'activité économique. Et donc, bah, on aura quatre fontaines. Et tout l'enjeu, c'est comment le dialogue se fait entre ces endroits. Et ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est avoir quatre espaces distincts qui ne communiquent pas entre eux. C'est cette richesse des fontaines, c'est justement ce lien qu'on peut faire entre les associations qui sont présentes et entre tous ces habitants.
Donc continuer à favoriser l'inclusion avec les structures associatives, les habitants, c'est vraiment tout l'enjeu du nouveau contrat de ville et de, en tout cas, ce qui est prévu pour les prochains mois et les prochaines années.
Hein, c'est ça, et particulièrement sur les fontaines où c'est pour nous un enjeu qui est prioritaire.
Alors un dernier mot peut-être pour conclure cette émission, on espère que vous avez passé un très bon moment avec nous.
J'ai passé un très heureux moment, c'est une bonne manière de débuter l'année, on est en janvier, c'est encore la période de faire des vœux, donc très très heureuse année à Cité Radio et à tous les habitants des Fontaines et à tous ceux qui écoutent notre émission.
Eh ben, merci infiniment Marie Quinton, on remercie également Manuel François d'être intervenu aujourd'hui pour nous parler, en tout cas pour cette émission spéciale consacrée à la politique de la ville. Merci également à Bruno Delors qui était à la régie technique de cette émission, à nos services civiques Elias mais aussi Maëlle et Soline qui ont toutes les deux réalisé le micro-trottoir et les questions des habitants pour cette émission. Merci également à la ville de Tours, à la ville de Saint-Pierre-des-Corps et à Tours Métropole Val-de-Loire. Merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité et votre confiance à notre radio. N'hésitez pas à écouter nos émissions et interviews en podcast sur notre site citéradio.fr. Nos programmes reviennent dans quelques instants. Passez une très bonne journée à notre écoute et à bientôt.
La Positive Info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3, avec Cité Radio. No news.
Call to say how much
Vous écoutez Cité Radio.
bois du bonbon menthol, j'écoute de la musique sous la roule et par terre. Dans un mètre ou des boules, funky, 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 funky.
Magic System avec le Bionix. Oui, voilà.
Nous on est venus pour danser.
On va faire le show. Ah. On va faire le show. On va faire le show. On va faire le show. Show, show, show.
Le Zoubou est une danse qui met l'ambiance, qui fait bouger, qui met la joie dans tous les cas.
C'est ça le Zoubou.
Quel plaisir de vous accompagner encore une fois aujourd'hui.